De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Le capitalisme est-il voué à mourir ? Alors que le gouvernement français lance son plan de relance économique avec des aides conséquentes fléchées vers l'économie dite verte, des analystes, économistes, penseurs, politologues, chercheurs n'hésitent pas à vilipender le système libéral et prédisent la fin du capitalisme si l'on veut sortir de ces crises sanitaires et environnementales et lutter contre le réchauffement climatique. Un nouvel ordre économique se profilerait-il à l'horizon ? Nous en discutons avec nos trois invités. Hervé Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie, et auteur notamment du livre « Que crève le capitalisme ?», un livre qui paraît cette semaine au Seuil. À vos côtés, Robert Boyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'Institut des Amériques, animateur de la théorie de la régulation qui analyse les transformations des capitalismes dans le temps long. Et votre prochain livre, « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie », sortira le 1er octobre aux éditions La Découverte. Et avec nous également Suzanne Georges, bonsoir.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir. Vous êtes docteur en sciences politiques, auteur, président d'honneur d'ATTAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et votre dernier livre, écrit avec Sophie L'Huillier, s'intitule « Je chemine » avec Suzanne Georges, un livre édité au Seuil et en librairie le 10 septembre. Et dans l'œil du monde planète, notre partenaire média, eh bien c'est la journaliste Audrey Garic qui nous livrera son choix info de la semaine, en l'occurrence des dernières nouvelles concernant la Convention citoyenne et les alternatives proposées par les citoyens qui la constituent. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, toujours préparé par Anaïs Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Bruno Mourlan. Le capitalisme est-il voué à mourir ? Sujet du jour.
Chacun sait que nous restons en situation de crise économique, mais nous nous préparons à continuer à affronter cette crise économique. Nous l'avons fait depuis le premier jour avec le président de la République et le Premier ministre, en intervenant massivement, en soutenant les entreprises, prêts garantis par l'État, chômage partiel, exonération de charges, fonds de solidarité pour les plus petites entreprises. Et nous allons accélérer à nouveau à partir du 25 août avec un plan de relance de 100 milliards d'euros qui a vocation à soutenir l'investissement des entreprises et la création d'emplois. Parce que l'enjeu maintenant, après avoir amorti le choc de la crise économique et amorti avec efficacité, c'est évidemment de relancer la machine économique, de permettre aux entreprises d'investir à nouveau, de créer des emplois, de façon à ce que nous retrouvions d'ici 2022, c'est mon objectif, le niveau de développement que nous avions avant la crise en 2019.
C'était un extrait d'une interview donnée par Bruno Le Maire le 13 août 2020, donc cet été. Il annonçait ce plan de relance de 100 milliards d'euros pour les entreprises, engagement pris aussi de consacrer 30 milliards à l'économie verte. Est-ce que vous avez les uns les autres connu un engagement financier aussi important pour l'économie verte, Hervé Kempf?
Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'économie verte. Au soir de cette émission, nous ne connaissons pas tout à fait les détails de ce plan de relance, donc j'aurais du mal à m'y exprimer. Mais le concept d'économie verte est extrêmement fallacieux. Ça concerne par exemple l'auto électrique. Or, l'auto électrique est extrêmement polluante. Ça n'est pas une auto propre, comme on le dit, parce que toute la chaîne de fabrication des auto électriques, et particulièrement des batteries, suppose donc consommation d'énormément d'énergie et donc d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, les métaux qui sont nécessaires pour faire ces batteries se font à des conditions extrêmement polluantes. Donc c'est le premier point, l'auto électrique, qui est le mantra d'un des renouveaux espérés du capitalisme, n'est pas une solution au problème de la mobilité, au problème des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, d'autres parlent des véhicules à hydrogène qui pourraient être peut-être plus respectueux de l'environnement.
Alors ça, c'est toujours la position actuelle du capitalisme, qui est de dire demain on rasera gratuit. Alors on rasera gratuit d'abord pas pour tout le monde. Et puis, c'est toujours demain. Moi, je vais vous donner une expérience. J'ai travaillé depuis très longtemps, quand j'étais très jeune, dès le nucléaire. Et quand j'avais fait une étude sur l'énergie nucléaire, c'était dans les années 70, donc vous voyez, ça nous rapproche pas. Et à l'époque, les nucléaristes disaient, oui, le nucléaire pose quelques problèmes, mais dans l'avenir, il y aura la fusion thermonucléaire. Donc, on va tout résoudre. Nous sommes maintenant en 2020, c'est-à-dire 40 ans plus tard, et la fusion thermonucléaire est toujours prévue pour 2050. Donc, on est dans cette situation où on nous dit toujours la technologie va résoudre le problème. Et en fait, non, ça n'est pas la technologie qui peut résoudre le problème. La technologie est en fait une vision idéologique, c'est l'expression du paradigme du néo-capitalisme et qui consiste en fait à ne pas poser les questions sociales, à ne pas poser la question de la répartition des revenus et des richesses et surtout de ne pas poser fondamentalement la question de l'écologie. Et c'est même plus la question de l'écologie, c'est la question de la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes maintenant plongés, non pas dans le futur, mais qui est déjà engagée dans le présent. Et à ça, le capitalisme et l'économie verte ne répondent absolument pas.
Robert Boyer, est-ce que vous avez le même avis sur justement cette notion d'économie verte qui, effectivement, est servie par tous? Et puis, une question peut-être plus personnelle, hein, mais qui dit aussi beaucoup, puisque vous êtes économiste, vous avez dû vivre cette pandémie, cette crise de Covid-19 personnellement. Voilà, qu'est-ce qu'elle a changé en vous et peut-être même le regard que vous portiez sur l'après? Et donc, on est en plein dans cette relance économique à venir.
Alors justement, il faut se méfier des termes génériques comme économie verte. Si j'étais américain, dans la Silicon Valley, c'est quasiment l'innovation technique va résoudre tous les problèmes. Ne vous inquiétez pas, on pourra poursuivre la croissance. Si je suis écologiste, etc., nous allons changer les modes de vie. Donc ce qui me paraît très important, c'est un système très mal défini. Pour certains, l'écologie est une occasion d'un redéploiement du capitalisme vers l'innovation. Pour l'autre, c'est la reconsidération de la société dans son ensemble. Alors moi, ça a été très important pour moi. J'avais 5 ou 6 voyages programmés. En Chine, au Japon, en Islande, etc. Et je me suis mis immédiatement à travailler sur la pandémie.
Donc, si vous voulez, à écrire
pour réfléchir à ce phénomène qui était inattendu. Et donc, j'ai passé à l'analyse spectrale du virus, la dynamique des capitalismes. Et c'est pour moi un épisode très particulier qui a été créé par cette aventure-là.
Suzanne Georges, votre regard à vous sur justement ce plan de relance et puis le fait d'avoir vécu cette crise, est-ce que pour vous, justement, ça dit des choses sur le système économique actuel et peut-être celui qu'il faudrait imaginer?
On peut espérer. J'espère qu'on va prendre en compte ce que disent des personnes comme Hervé, comme Robert Boyer et les ONG comme ATTAC. Nous avons nos points de vue. J'espère qu'on va modifier au fur et à mesure les projets. Mais ce que je pense surtout, c'est que les économistes ne sont pas prêts dans l'ensemble, compagnie présente exclue, pour penser correctement ce phénomène dans lequel nous sommes plongés. Parce que c'est toujours 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, et ça nous fait une graphique bien droite, bien agréable, alors que la situation physique et biologique, et chimique même dans laquelle nous sommes, c'est un système malléable et qui peut à tout moment quitter le graphique, qui peut toujours faire un saut, parce que parler de la Terre, c'est parler de systèmes extrêmement compliqués qui affectent l'un à l'autre et qui sont tels qu'une action ici peut avoir de plus
des répercussions,
énormes sur l'autre côté de la Terre.
Donc finalement, quand
les économistes ne pensent pas comme ça, et ceux qui commencent à faire cette histoire-là, je pense qu'ils ont aussi une pensée très arithmétique et pas du tout comme il faudrait pour l'époque.
La question se pose, est-ce qu'il faut soutenir l'économie coûte que coûte? Hervé Kempf.
Non, il faut sortir de l'économie. En fait, ça a été notamment très bien expliqué par un économiste des années 40 et 50, Monsieur Polanyi, et qui explique qu'en fait que le capitalisme dans le 19e et le 20e siècle a absorbé la société par l'économie. C'est-à-dire, on nous convainc maintenant que l'économie, c'est la société et que l'harmonie de la vie sociale ne peut être atteinte que par un bon niveau économique. En fait, il faut renverser cette situation. Il faut redonner en quelque sorte la primauté à la société, aux liens sociaux. Et la société, c'est bien autre chose que l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'économie, qu'il faut abandonner la production, qu'il faut abandonner la consommation. Mais il faut la remettre à sa place et considérer qu'une société se fait par des liens sociaux, par des institutions, par des croyances, par toutes sortes d'activités où le but de produire produire toujours plus. Et cet aspect très particulier du capitalisme et qui fonde essentiellement la philosophie capitaliste, qui est la volonté de toujours accumuler pour augmenter le profit. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est un système social extrêmement étrange, extrêmement court dans sa période historique par rapport à l'histoire de l'humanité, et qui considère que l'anthropologie, en quelque sorte l'essence de l'humanité, l'essence du comportement des individus, serait de toujours vouloir accumuler pour augmenter leur profit. Or, heureusement, les hommes et les femmes ne sont pas seulement animés par le but du profit, ils ne sont pas seulement animés par la concurrence, ils ne sont pas seulement animés par l'envie d'accumuler, ils sont aussi animés par le souci des autres, par les liens. Donc non, il faut sortir de l'économie, il ne faut pas hésiter à dire l'économie n'est pas l'alpha et l'oméga de la situation. Et juste un mot pour finir cette courte péroraison, de dire aussi, dans la période actuelle, on est dans une période historique extrêmement particulière où l'écologie doit être absolument en priorité. C'est-à-dire notre urgence en termes politiques, c'est collectivement, en tant que société mondiale, comment on fait face et comment on empêche cette catastrophe écologique de s'aggraver. Et de ce point de vue-là, on y reviendra sans doute dans la suite, l'économie telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle aggrave la situation au lieu de l'améliorer.
Robert Boyer, Hervé Kempf, dans son livre, qui est un livre coup de gueule, on peut dire, hein, Hervé Kempf.
Hein, non, c'est une analyse, absolument. Le titre
au début, c'est un bon coup de gueule, et ensuite, il y a l'analyse. On est d'accord. Robert Boyer, dans son livre, donc Hervé Kempf parle, bien évidemment, du mouvement social, du mouvement écologique, et ces deux mouvements qui ont commencé à bouger, à converger, et aussi, il regarde du côté des puissants, des plus riches, des classes dominantes, en disant qu'on en était loin. Est-ce que, selon vous, ce système capitaliste, avec cette volonté de gagner toujours plus, crée ce que Hervé Kempf appelle un apartheid, hein, entre les pauvres et les riches? Est-ce que finalement cette course à toujours plus augmente le fossé social?
Oui, je vais développer l'idée paradoxale qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les luttes sociales et politiques en faveur de l'égalité, la redistribution, qui ont donné son dynamisme au capitalisme, et non pas le déchaînement de la logique marchande. Et je crois que nous vivons à l'époque où le capitalisme doit être soumis à des contraintes lui permettant d'être analysé la reproduction de la société et la reproduction de l'environnement. Alors que toute la phase de libération a été au contraire libérée de toutes les contraintes vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du travail. Et donc, le réexamen est fondamental, puisqu'on se dit au contraire, le capitalisme est d'autant plus efficace qu'il a des contraintes l'obligeant à partager. Et la grande drame du libéralisme, ça a été l'encouragement. Vous avez les séries américaines, le décile le plus bas, une vie qui baisse et une explosion des riches. Et c'est un mécanisme qui bloque non seulement le problème social, mais aussi écologique et sanitaire, puisque cette égalité, inégalité est sanitaire, écologique, etc. Donc, la grande idée, c'est quels sont les mouvements politiques porteurs de cette contrainte pour la mettre en œuvre, parce qu'elle est, dans sa matérialité, elle n'est pas suffisante. Et donc, le grand mouvement, c'est le mouvement politique qui permettrait d'imposer ces éléments-là. Et dans les deux courses poursuites, inégalité, environnement, vous avez vu qu'avec les gilets jaunes, nous avons d'abord buté sur l'inégalité. Et dans mon argument, j'avais de longue date dit, nous allons buter sur une société inégalitaire, qui va rendre plus difficile le problème écologique. Et donc, je crois qu'il faut résoudre les deux problèmes simultanément. Ce qui suppose une ingénierie politique extrêmement sophistiquée dont la plupart des dirigeants ne sont pas capables.
Mais c'était la question que je vais vous poser. Est-ce que justement il y a cette prise de conscience au niveau politique?
Moi, ma réponse, si je peux me permettre, c'est non. Et pourquoi? Parce que les politiques, on est habitué à penser que les gouvernants seraient animés par le bien public. Et justement, ce qui s'est passé dans le néolibéralisme depuis une quarantaine d'années, dont maintenant on a une expression maximale, c'est que nous sommes rentrés dans un système oligarchique. Une des caractéristiques de l'oligarchie, c'est qu'il y a une fusion, en quelque sorte, entre les élites économiques et les élites politiques. Ça veut dire que les élites politiques, les gouvernants, ne vont agir, ils vont pas forcément toujours mal agir ou toujours agir à l'encontre de l'intérêt public, mais ils n'agiront jamais à l'encontre des intérêts privés. Donc, en fait, les gouvernants sont devenus, dans nos pays, des ennemis.
Mais ils agissent parce qu'ils sont conseillés aussi.
Ils agissent parce qu'ils viennent de Monsieur Macron, président de la République française, est passé par la banque Rothschild, Monsieur Trump est un milliardaire, enfin on pourrait poursuivre comme ça longtemps. Ils sont à tu et à toi avec les milieux économiques, c'est ce que les Anglais, les Américains appellent « revolving door », je prononce mal, c'est-à-dire les portes tournantes où il y a des passages entre les milieux privés et les classes dirigeantes de l'État.
Suzanne George, sur ces questions.
Je suis tout à fait d'accord avec Hervé et je peux l'appuyer, cette idée, sur les subventions qui sont données par nos États. Et j'ai eu la curiosité de regarder combien il y avait de subventions données à tout le système combustible fossile. Et le résultat, c'est 4,7 trilliards de dollars par an. L'an prochain, ce sera plus, ce sera 5 et quelques trillions. Et cette somme, comme personne ne peut trouver comment ça fonctionne avec 12 zéros, on se perd, moi je réduis en secondes. Alors, chaque dollar est une seconde. Et si vous avez un trilliard, c'est 32 000 ans. Alors, multipliez 32 000 par 4,7 et vous aurez le nombre d'années qu'il faudrait attendre. Et on arrive en général vers 1,5 million d'années.
Ce chiffre-là, c'est pour tout pays voilà, confondu, pour, hein, c'est ça?
Mais pour aider les industries, parce que apparemment ils sont pas vraiment capitalistes, ils sont socialistes, parce que ils ont énormément d'argent. La Chine, c'est en tête, 1,4 trillion, l'USA, 6,49 milliards, etc., etc. Et tout cela, ça n'est pas du tout capitaliste, c'est notre argent de nos impôts qui vont directement comme ça, et personne n'en parle. Tout le monde trouve ça normal.
Hervé Kempf, c'est du capitalisme d'État, non?
C'est en fait le néolibéralisme. C'est pour ça que j'ai une toute petite nuance avec Robert Boyer. Je parle plutôt de libéralisme économique et de libéralisme politique. Je sais pas si on ira dans cette nuance tout à l'heure, mais en tout cas, c'est le néolibéralisme qui s'est en fait développé à partir des années 30 et des années 40 en réaction au libéralisme qui total au laisser-aller, laisser-faire qui avait conduit à la crise de 29. Est arrivée la réaction de Keynes et de Roosevelt et de New Deal, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans l'économie. Et les néolibéraux, comme Hayek, comme von Mises, comme d'autres, ont dit, il faut que le marché reste en position principale, mais on ne va pas laisser l'État absolument absent. On va se servir de l'État pour encourager et pour soutenir le marché. Et c'est exactement l'exemple que vient de donner Suzanne George, c'est-à-dire un libéral conséquent de 1910 aurait dit, ah non, pas de subvention, laissons le marché, laissons les entreprises se développer. Le néolibéral, le capitaliste à l'heure actuelle, dit, oui, je prends les subventions de l'État, je les mets dans l'entreprise privée, mais je ne fais peser aucune charge à l'entreprise privée. Donc c'est une des caractéristiques du néolibéralisme ou du capitalisme actuel, c'est qu'en fait, on se sert de l'État au profit des entreprises et des lobbies d'intérêts privés.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser que le changement ne peut pas venir des grands patrons et des multinationales qui, pour certains, après le déconfinement, ont fait paraître des tribunes, hein, s'engageant sur la voie de l'économie verte? Alors, on a déjà discuté de cette notion, on n'y revient pas. C'était, par exemple, dans Le Monde du 5 mai 2020, sur l'initiative de Jean-Laurent Bonnafé, administrateur de BNP Paribas, avec 90 grands patrons signataires. Et puis, dans Les Échos du 20 mai 2020, 150 grands patrons de multinationales de 33 pays, couvrant 34 secteurs économiques, et qui s'engageaient tous à investir pour l'environnement. Qu'est-ce que vous en dites, Robert Boyer?
Si c'est très rentable, si grâce aux subventions d'État, on relève la rentabilité, nous allons participer à ce mécanisme. Donc c'est justement une lutte sur la direction de ce projet technique. Et je dirais que nous sommes preneurs de toute subvention qui nous aiderait à forger des industries très rentables. Merci bien. Donc c'est ça que ça veut dire. Et d'autre part, dernier point, il y a quand même beaucoup de rhétorique. Alors, moi, ce qui me semble beaucoup dans les conversions de tous les gouvernements, c'est qu'il y a la rhétorique et puis il y a la pratique. Et lorsqu'on voit le budget, on s'aperçoit que l'inertie des groupes d'intérêt passé fondamentales et qu'on continue à subventionner l'énergie fossile. Donc, c'est ça la grande difficulté parce que les intérêts sont inertes et façonnent au jour le jour les décisions. Et tant en Chine qu'aux États-Unis, l'industrie fossile joue un rôle tout à fait déterminant dans l'emploi, dans la dynamique. Et donc, d'un côté, on veut aller vers l'environnement, c'est des contraintes, mais on n'oublie pas de cheminer avec l'ancien modèle. Donc c'est ça aussi qui rend extrêmement difficile la confusion entre la rhétorique et la pratique. Et les pratiques sont très différentes. Et il manque des acteurs qui fassent pression. En deux mots, la bénévolence des patrons, c'est bien, mais il faut qu'ils soient acculés par des mouvements sociaux. On n'a jamais vu des patrons éclairés, libérer leurs salariés. Non, non, ce sont des luttes des salariés qui sont
donc là, vous pensez qu'il y a ces mouvements aussi qu'on a vu fleurir qui inquiètent les grands patrons, c'est ça?
Ah ben oui, il vaut mieux l'autorégulation par les patrons que une réglementation imposée par l'État sous les luttes sociales. Donc il y a cet aspect-là, on va devancer l'appel.
Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ce document sonore. C'est l'extrait d'une interview du président Macron sur TF1, c'était le 21 juillet 2020, avec l'annonce d'une aide de l'Europe de 40 milliards pour la France.
Tout ce qui va nous permettre, dans le plan de relance, de créer de l'emploi dans des secteurs industriels et écologiques, la batterie électrique, l'hydrogène, la rénovation thermique des bâtiments, de créer de l'emploi par la formation de nos plus jeunes comme de celles et ceux qui, tombant au chômage, auront à être reconvertis. L'Europe financera une part importante de ce projet. Et donc, la France touchera 40 milliards d'euros. Nous sommes le troisième bénéficiaire en Europe de ce plan de relance, ce qui, selon les travaux faits par le gouvernement à ce stade, correspond à en effet 40% des dépenses qui seront les nôtres. Ça veut dire que cet argent viendra de l'Europe sur notre budget, sans que nous ayons besoin de le financer, ni par notre propre endettement à nous, ni par nos impôts. Les 750 milliards d'euros de ce plan de relance vont nous permettre de financer et des prêts et des subventions. Ces 750 milliards d'euros, c'est une dette que les Européens prennent ensemble. Et nous allons ensuite, au niveau européen, créer ces taxes sur lesquelles nous nous battons d'ailleurs depuis plusieurs années. Une taxe numérique pour les grands acteurs internationaux du numérique qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts. Deuxième piste, ce mécanisme carbone aux frontières. Nous nous demandons à nos entreprises beaucoup d'efforts pour être plus vertes. On met un prix carbone pour que ce changement accélère. Mais lorsque nous importons de l'acier qui vient du bout du monde, qui est fait dans des conditions beaucoup moins vertueuses, il faut pouvoir mettre à nos frontières une taxe qui évite une concurrence déloyale. Cet impôt européen que nous allons bâtir ensemble, il permettra de rembourser cette dette que nous contractons.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, qui veut réagir en premier à ces propos d'Emmanuel Macron? Je rappelle, c'était le 21 juillet 2020. Suzanne Georges, je sens que vous avez pris des notes.
Oui, moi, je pense qu'il oublie les banques. Moi, j'aime bien les chiffres parce que ça parle de ce qui se fait vraiment sur le comptoir. Mais aux États-Unis, les banques ont financé pour encore les fossil fuel industries, les industries du carbone, plus de 2 trilliards encore, 0,7, 12 zéros, n'est-ce pas? Il faut absolument dire aux banques qu'ils cessent de financer ces industries par des prêts, par toutes sortes de méthodes, parce que ça, c'est le sang de ces industries qu'on invite à continuer.
Et ça, c'est de la dette privée, ça. Les banques qui financent des industries.
C'est de la dette privée, mais par toutes les très grandes banques qui ont finalement dit, nous allons dire combien nos prêts coûtent sur le plan écologique. Mais j'attends de voir ces rapports parce que je pense que ça va être assez comique.
Hervé Kempf, Emmanuel Macron parlait des GAFAM, hein, finalement, cet impôt sur ce capitalisme numérique que vous renseignez bien, dont vous parlez dans votre livre. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos directement? Et puis, on sent qu'il donne le message suivant, c'est cette dette-là, ces milliards et ces milliards, ne pèseront pas sur les foyers, ne pèseront pas sur les impôts que chacun devrait payer peut-être et potentiellement en augmentation. Il n'en est pas question.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce court extrait. Il y a trois idées. D'une part, il présente une fois de plus l'hydrogène et la batterie électrique comme écologique. Donc déjà, on va pas y revenir, mais c'est une illusion. La deuxième chose qui me frappe, c'est cette insistance sur une sorte d'argent magique. Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que à la fin 2019, déjà, donc avant la pandémie du Covid, il y avait une inquiétude absolument énorme des banquiers internationaux par rapport du FMI, par rapport au niveau extraordinaire de la dette mondiale. Et avec la pandémie, pour éviter de changer fondamentalement le système et maintenir l'économie telle qu'elle est, on remet un niveau de dette absolument extraordinaire, que ce soit par la Banque Centrale Européenne, que ce soit par la Federal Reserve Board aux États-Unis, que ce soit aussi en Chine d'ailleurs avec la Banque Centrale Chinoise. Et donc, on est là dans une forme d'argent magique, de volume d'argent absolument incommensurable, où on ne change rien fondamentalement au marché financier, où les bourses continuent à croître de manière absolument hallucinante, alors que peu à peu, le chômage va commencer à se répandre. Donc là, on a un vrai problème et qui, une fois de plus, dit qu'il est absolument urgent, il serait absolument urgent de se tourner vers les marchés financiers et vers la spéculation.
Et en sachant qu'il y a déjà une dette écologique.
Alors ça, c'est presque une autre histoire, parce que dans l'esprit de ces gens-là, ça n'existe pas, et que tout ce qui est fait pour relancer la croissance va en fait de facto accélérer la crise écologique, puisque on sait maintenant de manière absolument prouvé que la croissance économique telle qu'elle est conçue, avec les indicateurs tels qu'ils existent, entraîne une dégradation écologique. Un troisième aspect quand même dans l'extrait que nous avons entendu, qui est intéressant, et c'est l'idée d'une taxe numérique. Alors malheureusement, il se trouve que quelques semaines après que M. Macron ait parlé, la Cour de justice européenne a exclu le fait qu'on pourrait taxer fortement Apple. Donc Apple reste absolument inimposable en France et en Europe, ce qui pose un vrai problème, un problème énorme. Et la deuxième chose, c'est l'idée de taxes aux frontières européennes, et qui là est extrêmement intéressante. C'est une idée que les écologistes défendent depuis longtemps, donc ça n'est pas parce que M. Macron la défend aussi que je serai contre, mais je pense que ça va prendre énormément de temps, et je crains beaucoup qu'on n'avance pas aussi vite que sur d'autres plans. Et juste un point, il serait absolument essentiel en termes européens et en termes économiques pour rebâtir une souveraineté européenne, d'avoir une fiscalité commune, notamment en matière des entreprises. On n'y arrivera pas à 27, il faudrait le faire à 5 ou 6 pays, je ne vais pas les citer, mais peut-être la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France, peut-être l'Allemagne, et là refaire une unité fiscale qui nous permettra d'avoir une vraie souveraineté européenne, où on pourrait notamment faire des taxes écologiques, où on pourrait faire des mêmes taxes pour les entreprises, pour les riches, et c'est ça qui est vraiment le point crucial en ce moment et stratégique si on veut faire évoluer les choses.
Robert Boyer, dans votre livre, vous parlez du coma infligé aux économies mondiales. Est-ce que ce coma infligé ne donne pas quand même l'occasion aux États de retrouver leur place? Parce que là, on le sent, ils sont aux commandes.
C'est très clair qu'on s'est aperçu que le capitalisme est fragile. Alors, déjà en 2008, souvenez-vous, les gens de Wall Street avaient cru que c'était la fin du capitalisme. C'était la crise finale de Marx. Et donc, heureusement, Bush a déclaré « Moi, je ne suis pas pour l'État, mais je suis pour l'État pour sauver le marché. » Et donc, on a redécouvert l'État comme garant en dernier ressort. Et de toutes les mauvaises crédits, et du fait que le foyer américain pourra continuer à s'alimenter, à payer ses créances.
Mais après 2008, le capitalisme s'est redynamisé, en tout cas,
oui,
radicalisé.
Mais alors, là, je dois insister sur le point, on est reparti traitant le surendettement par un plus d'endettement. C'est-à-dire, moi, ce qui me paraît le plus frappant, il n'y aura pas d'autre mode de développement alternatif s'il n'y a pas mise sous contrôle de la finance internationale. Parce qu'en fait, c'est elle qui dicte la valeur des taux d'intérêt, des cotations boursières, des GAFAM. Donc, en gros, le maître de l'économie, ce ne sont pas les ministres des finances, ce n'est pas les banques centrales. Ce sont les marchés financiers, la communauté financière. Et c'est lui qui joue le court-termisme. On finance les industries rentables, même. Donc, le grand point serait, j'espère que va venir la prochaine crise financière qui reposera la question de l'intermédiation financière pour les besoins nationaux des économies. Et c'est à partir de cette instance de délibération qu'on pourra redéployer l'accumulation. Parce qu'il me semble qu'il y a toujours une épée de Damoclès. Et alors, dernier point, on va de crise de surendettement à surendettement qu'on soigne par un surendettement supplémentaire. Et donc, la prochaine crise financière sera encore plus grave que celle de 2008.
Et vous la sentez monter, cette crise?
Alors, la grande difficulté, c'est que les informations privées... Voilà, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé en 2008. Tous les financiers avaient inventé des produits dont ils étaient les seuls comptables. Et on ne découvre qu'ex post, dans leur bilan, des produits qu'ils avaient inventés et qui étaient des produits toxiques. Donc la grande difficulté, peut-être couve sous les pavés des produits toxiques, etc. Et c'est une fois la crise ouverte, parce que l'initiative est au secteur privé. Et à nouveau, on conviendra l'État à sauver. Et j'espère que les opinions publiques disent on vous a sauvé une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, c'est la question de renationalisation transitoire, ce qui a failli être envisagé par l'Angleterre. On a renationalisé, parce qu'ils avaient fait faillite. Et on rediscipline. Et on revend les banques une fois qu'elles ont été disciplinées. Et c'est ça le grand point. Parce qu'il y a un orchestrateur du capital. Ce sont les bourses. Le pouvoir est là, exercé.
Hervé Kempf.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Robert Boyer, qui est extrêmement important, parce que un de mes points de départ pour écrire que crève le capitalisme, c'était cette interrogation. Comment se faisait-il qu'en 2008-2009, alors que Robert Boyer l'a extrêmement bien décrit, le système est passé au bord de l'effondrement, qu'on l'a sauvé par les moyens que vous avez dit, mais qu'en même temps, tout est reparti. C'est-à-dire quelques années après, plutôt que de reprendre le contrôle des banques, plutôt que de reprendre le contrôle des financiers, plutôt que de faire une fiscalité plus juste, on est reparti comme avant, la bourse est extraordinaire, les banques se sont assouplies, enfin, on est revenu dans le même système. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est la thèse que je propose, vous pouvez pas avoir un système de domination sociale qui n'est pas une vision de l'avenir, qui n'est pas une vision du monde. Et cette vision du monde, les capitalistes l'ont reforgée, alors sur la base de la technologie, comme on l'a dit, mais il s'est passé quelque chose de très important au tournant des années 2008-2010, c'est un énorme progrès dans l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le deep learning, qui est une méthode de réseau de neurones qui s'est énormément améliorée, qui a tout de suite été saisie par les GAFAM, les Google, les Amazon, les Apple, les Microsoft, etc., alors qu'ils avaient d'énormes ordinateurs d'une capacité formidable, qu'ils avaient maintenant des milliards de données par toutes les traces que chacun et chacune d'entre nous on laisse chaque fois qu'on va sur un ordinateur. Et donc, ils ont fondu, en quelque sorte, cette intelligence artificielle, cette masse de données et cette capacité d'ordinateur. Et ça leur a donné une puissance énorme, une confiance en eux énorme, et qui est notamment marquée par l'essor du cours de bourse des GAFAM. C'est tout à fait fascinant quand on regarde leur cours de bourse, et qu'ils ont vraiment décollé à partir de 2010, 2011, 2012. Et que maintenant, vous voyez Jeff Bezos qui va à une fortune de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment la moitié d'un PIB comme la France. Ils ont une puissance énorme, ils ont une vision du monde totalement axée non seulement sur la technologie, mais aussi sur l'idée d'intelligence artificielle, sur l'idée de transhumanisme, sur l'idée qu'il va y avoir une hybridation entre les humains et les machines, et qu'il va y avoir une partie de l'humanité qui va avoir des capacités extraordinaires et qui va laisser tomber les autres. Et qui va laisser tomber la question écologique, et c'est là l'apartheid dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant la vision du néo-capitalisme, c'est une vision de technologie insensée, d'abandon de la question écologique et d'acceptation du fait qu'il y aurait les trois quarts de l'humanité qui sombreraient dans le malheur et la souffrance face à ce qui va arriver avec le changement climatique et l'érosion de la biodiversité.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas. Que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va.
C'était Benjamin Biolay. Comment est ta peine? Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, qui aborde aujourd'hui le thème de l'avenir du capitalisme et le nouvel ordre économique idéal, s'il y en a un, pour faire face aux crises et aux enjeux environnementaux. Et nous sommes avec Suzanne Georges, docteure en sciences politiques, auteure, présidente d'honneur de ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et elle est auteure avec Sophie L'Huillier du livre Je chemine avec Suzanne Georges, un livre édité au Seuil, Hervé Kempf, toujours avec nous, bien sûr, rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Et votre dernier livre s'intitule « Que crève le capitalisme », également édité au Seuil. Et puis Robert Boyer, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'Institut des Amériques, animateur, je le rappelle, de la théorie de la régulation qui analyse les transformations des capitalismes dans le temps long. Et votre prochain livre, qui sera intitulé « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie », paraîtra aux éditions La Découverte le 1er octobre. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonjour Rodrigue Aric.
Bonjour.
Alors vous êtes notre œil du monde Planète aujourd'hui, merci d'être avec nous. Et vous avez choisi de nous parler de l'actualité de la Convention citoyenne.
Oui, c'est la rentrée de la Convention citoyenne pour le climat. Ses membres ont un emploi du temps très chargé. Ils ont répondu aujourd'hui aux questions des associations de protection de l'environnement qui sont réunies dans le Conseil national de la transition écologique. C'est une instance participative du ministère de la transition écologique. Et à partir de la semaine prochaine, ils vont avoir une dizaine de réunions thématiques avec le ministère, des parlementaires ou des élus. Et l'objectif, c'est d'élaborer le projet de loi qui va rassembler un tiers de leurs propositions et qui devrait être discuté si les délais sont tenus en janvier 2021 au Parlement. Ils ont aussi rencontré de nouveau le Premier ministre Jean Castex, ce sera sans doute la semaine prochaine ou la suivante. Et puis ils sont sollicités de toutes parts, des sollicitations aussi nombreuses que variées, le MEDEF, ELV, Suez, la Cour des comptes, bref, on peut dire qu'ils sont entrés dans le dur.
On imagine, Audrey, que s'ils voient des avancées, ils doivent rester quand même vigilants sur la suite de leurs propositions.
Oui, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils ont lancé un site là il y a peu de temps qui s'appelle Sans filtre les 150 pour faire eux-mêmes le suivi de leurs mesures. Parce qu'ils avaient des craintes de longue date, d'ailleurs, de voir leurs propositions détricotées. Il y avait déjà Emmanuel Macron qui avait annoncé, quand il les avait reçus en juin, trois jokers, comme, je sais pas si vous vous souvenez, il avait rejeté la proposition de réduction de la vitesse sur l'autoroute. Mais après, il y a d'autres ministres aussi qui ont aussi émis des réserves. Et ça, donc, c'est pas ce qui était prévu un peu au départ, comme deal entre les citoyens et le gouvernement. Donc, les citoyens veulent vérifier si leurs 56 mesures seront bien reprises, que ce soit dans le projet de loi en préparation, dans le plan de relance, dans le projet de loi de finances. Et c'est important pour eux parce qu'ils voient leurs travaux comme un tout et que si on note une mesure, à leurs yeux, ça contribue à déstabiliser l'ensemble. Donc, ils vont être très attentifs au plan de relance qui sera dévoilé jeudi par le gouvernement, pour voir si leurs mesures sont en partie reprises et s'ils ont réussi à marquer finalement la politique gouvernementale.
Mais alors, est-ce que leur proposition engage un changement total ?
Non, moi je trouve pas. C'est vrai qu'ils ont été très critiqués au moment de la remise de leur proposition. On les a traités de Khmer Vert, d'ayatollah de l'écologie ou d'autres noms de la sorte. Et en fait, ils veulent certes engager un changement en profondeur de la société, mais pas vraiment le système économique ou capitalistique en lui-même. Ils vont quand même assez loin sur certains sujets. Nous, on l'avait vu en décryptant au Monde la moitié de leurs propositions. On avait regardé un peu l'ambition et la nouveauté de leurs propositions. Et on avait vu que ça allait plus loin, largement plus loin que ce qui existait, par exemple, sur la rénovation des logements ou l'interdiction des vols aériens, parce qu'il existe une alternative de moins de 4 heures en train, ou l'interdiction des publicités pour les produits les plus polluants. Donc c'est un changement important qui est beaucoup plus important que la politique actuelle du gouvernement en matière d'environnement, mais c'est pas une rupture non plus de notre système.
Vous restez avec nous, Audrey Garic. Je me tourne vers nos invités pour voir s'ils ont peut-être soit une question à vous poser, soit une réaction ou un complément sur ces questions-là. Hervé Kempf.
Peut-être un petit commentaire, puisque un reporter, on a suivi très attentivement la Convention citoyenne sur le climat. Quelque chose qui est très frappant, c'est que le président de la République avait dit « je reprendrai toutes vos propositions sans filtre » et il en a exclu beaucoup. Et notamment deux ou trois qui sont extrêmement importantes. L'un sur la 5G, ces 150 citoyens avaient compris qu'il y avait un vrai problème avec le nouveau système de téléphonie, la 5G, et avaient dit non, pas maintenant. Le président de la République n'en tient absolument pas compte et veut lancer des appels d'offres auprès des réseaux de téléphonie pour développer la 5G à la fin septembre. Donc là, c'est un mépris total de la Convention citoyenne sur le climat. Un autre chose, ces citoyens avaient compris aussi l'importance de l'artificialisation des sols et l'enjeu extrêmement important pour la biodiversité, l'artificialisation des sols. Ils avaient demandé l'arrêt ou le freinage de l'artificialisation des sols. Et on voit que notamment pour les entrepôts d'Amazon, qui sont sur des dizaines d'hectares des entrepôts de logistique extrêmement importants avec des conséquences écologiques énormes, que le gouvernement les maintient de manière forcée. Et puis par ailleurs, on a fait des enquêtes, on a publié notamment aussi une analyse de Corinne Lepage l'autre jour sur Reporter sur le droit de l'environnement. Et pendant que le gouvernement fait, on va dire, beaucoup de communication autour de la Convention citoyenne sur le climat, il y a une déconstruction, voire une démolition, dit Corinne Lepage, du droit de l'environnement, un affaiblissement de toutes les normes au nom, une fois de plus, de la relance économique. Donc il y a un vrai problème.
Robert Boyer, une...
Moi, il y avait une clause qui me paraissait intéressante, inscrire dans la Constitution que toute décision doit être compatible avec la soutenabilité. Et vous avez vu que ça aurait institué comme une contrainte absolue. Et vous avez vu que c'était complètement rejeté. Deuxième élément, lorsque les paysans protestent contre l'arrêt des fertilisants, bien on atténue la règle. Et donc, moi, je vois au contraire... relâchement des contraintes écologiques. Et il faut bien se souvenir que lorsque Macron est arrivé, son idée, c'était de relâcher toutes les contraintes qui peinent la croissance. Et le naturel revient au galop. Il faut relancer l'économie. Et donc, le divorce entre la rhétorique et la pratique me semble très préoccupant pour la démocratie.
Suzanne Georges, sur ces citoyens de la Convention collective.
Oui, concrètement, au début de l'émission, j'ai parlé des subventions des États. Je ne sais pas combien exactement pour la France, mais pour l'Europe, c'est 89 milliards
d'euros.
Et ce sont des chiffres d'un groupe de travail au Fonds monétaire international, le FMI, qui plaisante pas. Et qui dit, en plus, que si ces subventions n'avaient pas existé, nous aurions baissé la dose carbone annuelle de 28%, que nous aurions sauvé 46 000 vies de gens qui meurent dans des accidents de voiture et que nous aurions augmenté les revenus des gouvernements par 3,8% du PNB. Je pense que parler en termes humains de ce que nous pouvons faire si nous ne sommes pas aussi généreux avec les banques, avec les industries de combustibles fossiles, nous arriverons à convaincre le grand public qui ne comprend pas toujours que deux fois plus, c'est pire pour eux, c'est pire pour leurs enfants.
Ah oui,
ça va beaucoup plus vite que n'a dit le GIEC.
Donc flécher autrement les aides.
Hein, essayer de mettre toute la population,
dites.
Les jeunes commencent déjà à le faire, la pression sur le gouvernement. Autrement, nous n'arriverons pas.
Audrey Garic, quelque chose à ajouter ?
Oui, j'étais d'accord avec Hervé Quin, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de mauvais signaux de la part du gouvernement par rapport aux propositions de la Convention citoyenne. Et on avait aussi un premier test qui était quand même l'examen en juin du troisième projet de loi de finances rectificative, où toutes les propositions de la Convention qui avaient été intégrées dans ce projet de loi ont été retoquées parce qu'elles ont été rejetées par la majorité. Donc là, on va attendre le plan de relance, on va attendre le projet de loi, le prochain de la Convention citoyenne, mais bon, les réunions de travail faisant que c'est repoussé, donc on va voir comment ça se passe, mais je ne sais pas si le gouvernement ne devrait pas changer un peu son adage et voir s'il n'y a pas, au-delà de l'écologie du mieux, besoin aussi d'une écologie du moins.
Merci Audrey Garic. En tout cas, je précise pour les auditeurs que toutes les informations sur ce sujet, sur ces enquêtes que vous couvrez, sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr. Et puis je signale aussi les articles de Rémi Barou, j'en profite, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où là aussi des alternatives citoyennes sont à suivre. Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
J'ai déjà fait des manifs, mais c'est le premier blocage. Et moi, je suis lyonnaise, je suis venue exprès sur Paris, exprès pour ce blocage-là.
Écologie sans transition.
Si on se bouge pas maintenant, plus on attend, plus on perd. Toutes les espèces qu'on va perdre, on les récupérera jamais. Et bientôt, ce sera la nôtre. Et du coup, voilà.
C'est la cause et surtout le message d'Extinction des Rébellions qui m'a vraiment touché, notamment la non-violence, l'inclusivité. Voilà, je suis père de famille, salarié.
On est là pour empêcher les forces de l'ordre de venir enlever le bateau pour que le blocage puisse rester le plus longtemps possible. Ils peuvent tirer, on est attaché, c'est des menottes et on n'a pas la clé, donc ils peuvent tirer autant qu'ils veulent. Ce qui me fait peur, moi, c'est la catastrophe climatique qui est en cours. C'est la sixième extinction de masse, c'est les plus 1,10 degrés qu'on a pris en 100 ans.
On va un peu dans le mur. Petit à petit, je me dis que si maintenant je fais rien, je vais m'en vouloir tout le reste de ma vie. Moi, mes parents me disent ça.
ils me disent, c'est vrai qu'on commençait à savoir qu'il y avait, on allait un petit peu, ça allait être un peu compliqué, mais on faisait rien. Et là, on continue à rester dans ce système de consommation.
Plus 7 degrés contre 2100, c'est l'extinction du vivant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de futur pour vos enfants.
On était à Châtelet pendant 4 jours, ils n'ont rien dit. Là, on est à Rivoli. Bon, ben, est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Peut-être que finalement, ils sont contents qu'on soit là et qu'on fasse leur boulot. En fait, on parle de ce qu'ils devraient dire eux, donc peut-être qu'ils nous laissent faire pour ça.
C'était un reportage diffusé sur France Info le 11 octobre 2019. Ce mouvement, Extinction Rébellion, il y a d'autres mouvements aussi, on pense aux manifs pour le climat, etc. Ces militants qui agissent avec la non-violence, hein, cette règle, et qui veulent alerter sur la catastrophe climatique. Est-ce que on peut craindre, si on ne change rien, plus de mouvements sociaux et potentiellement peut-être une évolution là vers la violence, Suzanne Georges?
Je pense que les ONG ont compris que la violence, la presse ne parle que de ça. Ils ne savent jamais dire quelque chose sur la raison de la manifestation. Donc je crois que cette vérité que je dis depuis 20 ans, au moins, est maintenant acceptée. Donc ça, ce n'est pas ma crainte. Je crois qu'il faut savoir aussi qu'il y a maintenant 30 organisations, y compris la CGT, avec Intac et beaucoup d'autres organisations qui s'unissent maintenant et qui ont la révolution sociale, mais aussi la révolution écologique dans leur programme. Et que ça, c'est une avancée. Les jeunes sont extrêmement sérieux dans leur approche de ces questions. Et je crois que si on fait confiance aux citoyens, toujours par l'éducation populaire, ça c'est la base d'Attac, de faire comprendre, et Hervé peut contribuer, et Robert aussi, à cela, avec un langage peut-être un peu moins savant, mais qui pourrait aider tout le monde à penser pour aller de l'avant. Et si vous avez des amis brésiliens ou américains, je vous demande de leur dire de ne pas accepter Bolsonaro et Trump, parce que sont les deux plus grands pollueurs du monde. C'est très simple, c'est l'Amazonie qui disparaît et c'est les États-Unis qui sont infectés par le virus. Et le virus vient de ce que nous ayons détruit tant d'espèces et que maintenant quelque chose qui est au fin fond de la forêt est venu faire des morts dans tous les pays ailleurs.
Et oui, une crise économique qui est une crise sanitaire. Robert Boyer, c'est vrai qu'il faut peut-être le rappeler parce que ce lien n'est pas forcément fait pour tous. Hein.
Parce que longtemps, la santé a été conçue en France comme un coût financé par la collectivité. Et là, on s'aperçoit que sans santé publique, le capitalisme n'est pas possible. Et ce retournement est très difficile à verbaliser parce que le politique veut continuer à dominer. Et en fait, dans mon livre, vous allez voir l'idée suivante, on a cru qu'on pouvait arbitrer un peu plus de mortalité, plus d'économie. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout. Il faut restaurer la santé publique pour que l'économie reprenne. Et ça, c'est très douloureux à être pris en compte. Puisque, grosso modo, ça annule les politiques d'économie faites à l'hôpital, par exemple en France. Donc, je trouve que là, la rupture a été très claire, brutalement. Les politiques et les marchés financiers ont à obéir à une évolution qui n'est plus la leur. Et c'est pour eux une révolution extraordinaire.
Et alors, vous suivez ces mouvements aussi de jeunes, que ce soit Extinction Rébellion, Alternatiba ou d'autres, et puis des jeunes sans forcément être impliqués dans des ONG. Vous les sentez aussi demander un autre système économique. Quel système économique idéal et réalisable devrait advenir à vos yeux pour amener un développement compatible et avec la soutenabilité environnementale et sociale? Robert Boyer et Hervé Kem.
Je dirais d'abord révolution démocratique. Parce que, si vous voulez, l'homme aux écus commande l'avenir. On engage des moyens, on va aller sur Mars, vous voyez très bien, et on ne s'ennuie pas dans les minorités. Donc la grande difficulté, c'est la reconquête de la démocratie. Le deuxième élément, c'est revenir à Polanyi. La santé, le travail et la nature ne seront jamais des biens marchands. Et du coup, limiter l'échange marchand à les biens qui sont sans importance, les biens publics et fondamentaux. Troisième élément, et c'est ça le plus difficile, des biens mondiaux publics, des communs mondiaux. Et vous savez qu'avec la décomposition des relations internationales à cause de Trump, on va à l'opposé. Par exemple, la réaction logique aurait été renforcer les pouvoirs de l'OM, l'Organisation mondiale de la santé, avec des droits aussi coercitifs ou l'FMI. vous avez vu que c'est strictement pareil. On va la marginaliser. Alors, dernier point, regardez le dernier ouvrage de Piketty, c'est impressionnant. Il propose trois choses tout à fait importantes. Fiscalité progressive, de contrôle des salariés et réforme de l'éducation dans un système de cercle vertueux. Et je trouve, il faut une réforme systémique. Et c'est pas simplement, par exemple, il faudrait taxer les capitaux internationaux, j'ai toujours été pour cette mesure, mais il faut accompagner par toute une série d'autres mesures complémentaires. Et dernier point, elles dépendent beaucoup des États. L'organisation de la santé. De la santé publique, c'est pas le marché qui va la dicter. Et ça, c'est cette reconquête sur les biens fondamentaux. Mais ça suppose qu'on aille dans la prochaine crise tellement forte que les utopies vont reprendre de la main. C'est-à-dire, grosso modo, la matérialité de la crise est là, mais les gens sont aveugles.
Ah oui, vous nous dites qu'il faut une deuxième crise pour voir plus clair.
Pour que, comme dans l'entre-deux-guerres, on voit que c'est l'impasse, et même les grands pollueurs sont obligés de se ranger et ont à nouer un compromis avec les nouvelles contraintes. Et hélas, donc, j'attends la prochaine crise.
En précisant quand même que chaque crise fait des dégâts et des victimes, et que c'est dans la douleur, et que malheureusement, il y a aussi ces questions-là. Vous citiez Thomas Piketty, on le retrouve cité aussi dans votre livre Hervé Kempf, hein, puisque vous citez cette phrase notamment, la dégradation du capital naturel est un risque autrement plus sérieux que tout le reste, cela est la véritable dette. Et vous nous proposez dans votre livre, Hervé Kempf, des solutions et des alternatives.
Oui, en fait les solutions on les connaît, Robert Boyer vient de très bien le résumer. Ici, Thomas Piketty, qui est plus concret sur la fiscalité, c'est tout à fait exact. Tout le boulot d'attaque, notamment depuis une vingtaine d'années, est très clair. Donc, les solutions, on les a. Il faut arrêter d'avoir à répondre, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Ce qu'on veut mettre à la place, c'est un système où ça n'est pas le profit qui va être au cœur des choses, où ça ne va pas être l'oubli de l'écologie qui va être au cœur des choses, où ça ne va pas être la compétition entre les gens qui va être au cœur des choses. Voilà, on inverse les choses. Alors, il va y avoir des crises. C'est même plus des crises. Nous sommes engagés dans une grande mutation qui est, hélas, déjà extrêmement douloureuse. On ne le ressent pas encore, j'allais dire, dans les pays développés, ou du moins pour les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, parce que les précaires, les pauvres ressentent déjà très fortement, les migrants ressentent déjà très fortement, même dans les pays dits riches, la souffrance et la douleur.
Quand vous dites les migrants, parce qu'il y a déjà des migrants du climat, ils sont des millions.
Oui, et puis je dis
et
des
de
migrants
dus au climat aussi.
Au nord de Paris où j'habite, vous avez des gens qui dorment simplement sur le pavé parce qu'ils sont épuisés, ils n'ont pas à manger, ils ne savent pas où aller, et c'est absolument effrayant qu'un des pays, le 6e ou le 7e ou le 5e, je ne sais pas, plus riche du monde, que vous ayez sur le trottoir des gens qui dorment, pauvres, échoués, sans savoir quoi faire. C'est simplement inadmissible. Il y a une inhumanité dans le système actuel et dans le capitalisme avec lequel il faut rompre. Et ce que disait Robert Boyer, il faut que les choses changent. Il voudrait presque, vous prédisez, mais nous sommes assez d'accord, d'autres catastrophes encore. Moi, je crois qu'il faut... Quelle est la solution? Eh bien, déjà, changer dans notre tête. Et par exemple, se dire... Plutôt que d'avoir peur de la fin du monde, plutôt que de croire que la fin du monde est possible, mais pas la fin du capitalisme, il faut inverser. La fin du capitalisme est possible, mais on va empêcher la fin du monde. Et donc, on se met ensemble. On est sur la coopération, on est sur la lutte aussi, parce que c'est pas seulement parce que je vais acheter du bio, que je vais faire mon petit vélo, que je vais mettre mes déchets. Il faut le faire, bien sûr, que ça va changer la donne. Il faut vraiment être dans la lutte. Et ce que disait Robert Boyer était juste, hein, on est d'accord autour de cette table, mais chacun avec nos mots différents, c'est quel mouvement politique va poser des contraintes au capitalisme, c'est-à-dire au système de destruction du monde à l'heure actuelle. Et c'est ça l'enjeu. Suzanne, vous citiez les mouvements de jeunes, vous avez mis le reportage à la radio de Extinction Rébellion. Il y a heureusement toute une génération qui se réveille. On est aussi là autour de cette table d'un certain âge, on continue, notamment Suzanne Garde.
Il y a différentes générations.
À avoir une bonne pêche, et ben, on fait ça, on se met tous ensemble, on lutte, on se dit le capitalisme, eh bien, il va mourir. Et puis tous ces riches là dont vous parliez, les milliardaires, vous voulez faire un effort les milliardaires? Accepter une forte fiscalité, abandonner vos fonds, et plutôt que de chercher à investir l'OMS comme le fait Bill Gates avec sa fondation, vous vous laissez imposer, et c'est l'État, un État démocratique, qui va redistribuer et faire les vrais choix pour le bénéfice de la collectivité.
Oui, parce que vous parlez du collectif, vous parlez de la coopération, de l'entraide, de la relocalisation, parce que bien sûr, les auditeurs doivent se poser la question, c'est bien beau de parler de la gentillesse des regards, de la solidarité, mais l'économie, c'est aussi du travail, c'est aussi pour faire vivre sa famille. Ce que vous dites, c'est qu'un autre système économique qui permet à tout à chacun d'avoir son rôle dans la société, de travailler, c'est possible.
Oui, et juste un mot, je ne sais pas le temps qu'il nous reste, mais on a décrit rapidement tout à l'heure les technologies et le paradigme néo-capitaliste fondé sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il prévoit un chômage massif. Mais c'est Bill Gates lui-même qui le dit, comme tous les spécialistes de l'OCDE ou d'ailleurs, si on laisse se développer la 5G et l'intelligence artificielle, il y aura un chômage massif. Par l'écologie, nous pouvons refaire de la création d'emplois dans l'agriculture, dans les transports, dans la rénovation énergétique, dans d'autres modes de déplacement. Mais si on laisse le capitalisme se développer...
Relocaliser et retrouver aussi une autonomie et une résilience.
Relocaliser, mais aussi se battre contre le développement insensé des technologies qui vont détruire de l'emploi.
Donc ça veut dire quand même que l'État doit retrouver sa place, reprendre un rôle qu'il a laissé à la finance.
Il doit s'affranchir du contrôle de la finance. Il faut se souvenir de l'ouvrage de mon collègue Wolfgang Strick. Les gouvernements ont deux tuteurs, les citoyens qui votent et les marchés financiers qui jugent leurs dettes. Il faut à tout prix éliminer le pouvoir de la finance sur les choix budgétaires. C'est-à-dire que la chose importante, c'est que l'État est l'instance collective que se donnent les citoyens pour remplir des buts communs. Et ça, ça a disparu. C'est, l'État gère bien sa notation par les agences financières. Donc, j'ai l'impression très, très important. Et sans revivification de la démocratie, si vous voulez, grosso modo, elle est capturée dans la plupart des pays, si vous voulez. C'est ça qui est quand même très, très important, par la représentation politique, par le fait que les riches aux États-Unis peuvent financer un montant illimité, etc. La participation différentielle des pauvres au vote. Et c'est cette pression démocratique pour que l'État ait aussi peur des citoyens qu'il a peur des marchés financiers. Lorsqu'ils seront effondrés, les marchés financiers, il n'aura plus peur, il n'aura plus qu'à satisfaire les citoyens. Et c'est cette fonction-là qui est absolument essentielle. Et la question de santé et éducation, ce sont des questions de société, de l'État. Ce n'est pas le marché qui va régler ça.
Suzanne Georges, le mot de la fin.
Je n'ai vraiment pas quelque chose à ajouter. Je trouve que ça a été admirablement exprimé par Hervé et par Robert. Et je dirais simplement de ne pas oublier les jeunes, de les mettre dans le coup et de faire un peu ce que j'ai fait depuis de très longues années, c'est-à-dire des conférences pour des groupes de citoyens qui sont pas forcément au courant de tout cela. Et c'est extrêmement enrichissant aussi pour nous tous qui faisons ce travail. Je pense que si on peut convaincre et si on peut attirer des gens autour d'un certain nombre de buts.
Toutes générations confondues.
Toutes générations. Moi, je suis le plus heureuse quand les vieilles dames viennent me voir en disant « Madame, merci, j'ai tout compris ». Et tout le monde peut tout comprendre. Et c'est cela qu'il faut essayer de mettre dans nos activités quotidiennes, dans nos écrits, etc. Moi, je reste peut-être à tort optimiste parce que je crois à l'être humain. Je crois que quand il y a une compréhension, autrefois on pouvait dire US sortait du Vietnam. Tout le monde comprenait. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut prendre plus de temps. Il faut 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer pourquoi. Mais je crois que nous pouvons le faire et que des émissions comme la vôtre sont extrêmement utiles dans ce sens. Et je vous remercie.
Merci à tous les trois. Et je rappelle pour nos auditeurs le titre de vos livres à chacun. Suzanne Georges avec Sophie L'Huillier. Je chemine avec Suzanne Georges. Un livre édité au Seuil en librairie le 10 septembre. Hervé Kempf, Que crève le capitalisme, également édité au Seuil. Et puis Robert Boyer, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie. Livre à paraître le 1er octobre aux éditions La Découverte. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement et réécoute à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou sur notre page Facebook. Mardi prochain, ne manquez pas notre rendez-vous car nous serons en compagnie de Nicolas Hulot et du philosophe Frédéric Lenoir. Et puis, vous restez bien sûr à l'écoute de France Culture. Dans quelques minutes, le journal de la rédaction.